rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson American Idiot de Green Day. Septembre 2001. Les tours du World Trade Center s'effondrent en direct sous les yeux du monde. L'Amérique de l'oncle Sam ne serait-elle qu'un colosse au pied d'argile ? En quelques heures, la sidération laisse place à une peur nouvelle. L'Amérique se referme sur elle-même, humiliée, blessée, mais unie dans la douleur. Les drapeaux fleurissent sur chaque balcon. Les hymnes résonnent dans les stades. Le président George W. Bush jure de trouver les coupables, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Très vite, ce sursaut patriotique se transforme en un véritable culte de la peur, orchestré par des intervenants en tout genre. Les chaînes d'information en continu deviennent l'épicentre du pays. Elles diffusent les mêmes images, les mêmes musiques dramatiques, les mêmes débats à l'infini. Mais ça ne s'arrête pas là. Des animateurs colériques, sûrs de leur bon droit, occupent les plateaux. C'est l'Amérique des talk-shows politiques, dans lesquels on crie plus qu'on ne pense, où l'audience a valeur de vérité. Là, le mot patriotisme devient un argument publicitaire, et la peur, un filon inépuisable. Le gouvernement instaure un système d'alerte codé par couleur pour mesurer le risque terroriste. Vert, bleu, jaune, orange, rouge. Chaque fois que le niveau monte, les médias s'enflamment. Les aéroports se figent. Les gens regardent leurs voisins d'un autre œil. La société tout entière s'habitue à vivre dans un état d'urgence permanent. Dans ses discours, Bush parle du monde en termes de « good guys » et « evil doers ». Un langage manichéen, presque enfantin, qu'on peut traduire par « les bons et les méchants ». Le président déclarera « Vous êtes soit avec nous, soit avec les terroristes ». Le vocabulaire est simple, binaire, martial. Les chanteurs patriotes remplissent les ondes. Les drapeaux américains s'invitent sur les pochettes d'albums. Hollywood s'enrôle dans la croisade. L'Amérique est perfusée au patriotisme et à la propagande. En Californie, trois musiciens observent cette hystérie collective avec un mélange de colère et d'incrédulité. Billy Joe Armstrong, très cool, et Mike Dunt, les membres de Green Day, sortent d'une traversée du désert. Eux qui ont tutoyé les sommets avec Dookie, l'album qui les a propulsés sur la scène mondiale 10 ans plus tôt. Leur précédent album, Warning, sorti en 2000, n'a pas rencontré le succès espéré. Le punk adolescent de leur début semble démodé. La vague néo-punk qu'ils ont eux-mêmes initiée au milieu des années 1990 leur échappe. On les croit finis. Le groupe traverse des tensions internes. Et catastrophe. En 2003, une bande contenant les maquettes de leur nouvel album est volée au studio. Une catastrophe ? Dans un premier temps, oui, bien sûr. Mais elle va permettre à Green Day de s'offrir une belle remise en question. Plutôt que de recommencer les mêmes chansons, ils décident de tout jeter à la poubelle, tout effacer pour mieux renaître. Dans cette page blanche forcée, Billy Joe Armstrong sent revenir une urgence qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Ce besoin de parler, d'hurler même, contre l'époque. Lui qui a grandi dans les clubs enfumés de Berkeley, au cœur de la scène punk indépendante, voit le mouvement s'embourgeoiser, devenir un produit. Il voit aussi son pays s'enfoncer dans le conformisme, la peur, la désinformation. La télévision est squattée par Fox News. Les radios tournent en boucle sur le soutien à la guerre pour être un bon Américain. Armstrong se sent étranger dans son propre pays. Il regarde ses enfants grandir dans un climat de paranoïa, dans une Amérique obsédée par la guerre, la peur et les écrans. Il voit la musique qu'il aime devenir un simple décor de publicité. Et il se dit que le punk a peut-être encore une mission, réveiller, provoquer, secouer la torpeur. Pas seulement chanter l'ennui adolescent, mais crier la colère d'une génération piégée entre la désillusion et l'endoctrinement. Leur nouveau disque ne sera pas un simple album, ce sera un manifeste. Green Day veut raconter l'Amérique telle qu'elle est devenue, et non celle que la télévision vend. Un pays sous anesthésie. Musicalement aussi, ils veulent sortir du format habituel. Ils s'autorisent des morceaux fleuves, des changements de tempo, des ruptures de ton. Ils s'inspirent des opéras rock des années 1970. Tommy, des Who, The Wall, de Pink Floyd, mais avec la rage du punk. Une ambition inédite pour un groupe qu'on croyait catalogué ado-rebelle. Dans cette atmosphère de création bouillonnante, les répétitions deviennent des exutoires. Ils improvisent, testent, jouent fort. Les textes se politisent, les riffs deviennent slogans. Armstrong commence à aligner des phrases rageuses contre l'Amérique conservatrice, bornée, nationaliste. Contre cette propagande aveugle. Mais il lui manque encore une phrase clé, une étincelle. Un jour, alors qu'ils écoutent la radio, les membres du groupe tombent sur une station conservatrice où un animateur glorifie la guerre. Billy Joe éteint le poste, excédé, et s'exclame « Don't want to be an American idiot ». Je veux pas être un imbécile d'Américain. La phrase claque comme un manifeste. C'est le point de départ d'un hymne de révolte et d'un album qui marquera une génération. Le vol de la bande contenant les maquettes de leur nouvel album est le moment à l'origine de la chanson « American Idiot » qui paraît le 31 août 2004, puis sur l'album éponyme, le 7e du groupe Green Day. Avant d'être un single, « American Idiot » est la porte d'entrée d'un concept album du même nom, une sorte d'opéra punk racontant la révolte et la désillusion d'un personnage, « Jesus of Suburbia ». Le Christ des banlieues. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le morceau manifeste, celui qui ouvre l'album et en résume toute la charge politique. American Idiot, c'est 3 minutes, à 100 000 volts, contre une Amérique aveuglée par la peur et abrutie par la télévision. La chanson est un coup de poing. Armstrong refuse d'être ce citoyen modèle, façonné par les médias, les talk-shows et la rhétorique guerrière du début des années 2000. Don't wanna be an American idiot, l'expression ne vise pas un peuple, mais un état d'esprit. Celui d'une nation qui a troqué le sens critique contre la sécurité, l'information contre le spectacle, la liberté contre le confort. C'est pas un pamphlet contre l'Amérique. C'est un cri venu de l'intérieur, celui d'un patriote déçu qui réclame le droit de penser autrement. Dès l'ouverture, Armstrong pose le ton, le refus du formatage collectif. Je ne veux pas être un imbécile d'Américain. Je ne veux pas d'un pays devenu fou d'une nouvelle obsession. Tu entends ce vacarme d'hystérie ? C'est l'Amérique du conditionnement subliminal. Ces 4 vers résument tout le propos du morceau. Une Amérique devenue hystérique, hypnotisée par les médias et les nouvelles obsessions nationales où la manipulation des esprits a remplacé la pensée critique. Le refrain martelé comme un mantra agit comme un antidote. Bienvenue dans une époque sous haute tension. Au cœur d'une nation devenue étrangère à elle-même. Rien n'est fait pour que tout aille bien. La télévision vend ses rêves de lendemain, mais nous, on n'est pas là pour suivre. Et ça suffit à faire scandale. Face à une Amérique sous tension permanente, où la peur et la télévision dictent le rythme du quotidien, Armstrong oppose une génération lucide et désobéissante. Pour elle, refuser de suivre est déjà une forme de résistance. Musicalement, American Idiot est un modèle d'efficacité punk. Un tempo frénétique, un son brut et agressif, une batterie martiale et un refrain taillé pour les stades. Le morceau dure 2 minutes 58, sans temps mort. Les guitares s'enchaînent sur une progression en mi majeur, ouverte, lumineuse. Un contraste ironique avec le propos. Le pont central, « Don't want to be an American idiot », agit comme une montée collective, une invitation à la désobéissance joyeuse. Là où le punk classique des années 1970 ne visait qu'à choquer, Green Day maîtrise la production. Son net, mix puissant, mur sonore calibré pour les radios, tout en gardant l'urgence. C'est le punk à l'ère MTV. Le single sort le 31 août 2004 et grimpe rapidement dans les charts. Top 10 en Grande-Bretagne, top 5 du Billboard Modern Rock. Surtout, il redonne à Green Day un rôle qu'il n'avait plus depuis le raz-de-marée de l'album Dookie, celui de porte-voix d'une génération. La presse salue un retour à la révolte politique, chose rare dans le rock américain du début des années 2000. Certains médias conservateurs y voient une provocation antipatriotique, preuve qu'ils ont touché là où ça fait mal. American Idiot dépasse le simple tube. C'est un signal de réveil, au milieu d'une décennie anesthésiée par la peur et le divertissement. Le morceau ouvre la voie à tout un renouveau du punk engagé, prouvant qu'on peut encore faire danser les foules en parlant politique. L'album deviendra un classique moderne, adapté plus tard en comédie musicale à Broadway. Paradoxe magnifique pour un cri de rébellion. American Idiot ouvre une nouvelle ère pour Green Day, celle d'un groupe qui a dépassé le punk adolescent pour devenir la voix politique d'une génération mondiale. Portés par ce succès, ils signeront d'autres albums conceptuels, prouvant qu'on peut grandir sans renier sa rage. Et 20 ans plus tard, leur héritage reste intact. Il est celui d'avoir montré qu'un trio de gamins de Berkeley pouvait transformer la colère d'une époque en conscience collective. America.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, le média rock de la RTBF.